Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous arrivons à l'étude numéro 8 concernant le thème de la poussière à la gloire. Cette étude finale que je vous transmets selon mon expérience, je vous conseille de la réécouter de temps en temps. Croyez-moi, cela en vaut la peine, car c'est un thème vital. La gloire éternelle et une meilleure résurrection. Il est dit dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, verset 35, « D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance. Pourquoi ? C'est pour obtenir une meilleure résurrection. » Nous allons voir cela de plus près pour mieux comprendre. Le chapitre 11 aux Hébreux parle de la foi triomphante de tous ceux qui nous ont précédés. Ils fermèrent la gueule des lions, ils furent vaillants à la guerre, ils mirent en fuite des armées étrangères et retrouvèrent leur mort par la résurrection. Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux passe à d'autres héros de la foi, à ceux qui auraient pu être délivrés, mais qui ont refusé cette délivrance. Et là, à nouveau, pourquoi ? Comment quelqu'un pourrait-il refuser d'être délivré ? Et cela nous indigne. Mais la raison nous en est donnée, car ils voyaient au-delà du visible, c'est ça. Ils voyaient une meilleure résurrection dont l'obtention était incomparablement plus importante que la vie elle-même. Une meilleure résurrection. Après avoir médité sur ce verset depuis près de 30 ans, j'en arrive à certaines conclusions. Commençons par essayer de comprendre ce que signifie une meilleure résurrection. Tous ceux qui sont sauvés auront part à la première résurrection, qui est la résurrection à la vie éternelle. Mais quelle résurrection pourrait lui être encore supérieure ? La réponse, c'est une plus grande gloire. Une plus grande gloire. Il est un fait que tous les croyants n'auront pas le même degré de gloire dans leur corps ressuscité. Nous serons tous glorifiés, mais nous ne posséderons pas tous la même gloire. L'apôtre Paul nous parle de cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. Il dit « Autre sera la gloire du soleil, autre sera celle de la lune, et autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ainsi sera la résurrection des morts. » L'apôtre Paul voyait et décrivait avec les yeux de l'esprit. Il voyait ce que serait la résurrection des morts. Il voyait des saints venir sur des nuées de gloire. Il en voyait ayant la gloire du soleil de midi. D'autres, le brillant de la lune, d'autres encore, la lumière des étoiles, certaines plus éclatantes que d'autres. Tous ces niveaux de gloire, de lumière, seront visibles à la résurrection des morts. Il y aura différents degrés de gloire dans le ciel, car Dieu est juste. Il n'est pas réservé à tous, à tous les croyants, la même récompense. Évidemment, ça peut choquer dans quelques-uns d'entre vous, mais réfléchissez un peu plus et vous comprendrez. Il y a aussi un effet différent de différentes intensités de souffrance. Voyez-vous, certains recevront, on peut dire, peu de coups, d'autres en recevront beaucoup. Jésus a mis en garde certaines villes en disant que Sodome et Gomorre, au jour du jugement, seraient jugées moins sévèrement que certains autres. L'apôtre Paul nous dit que chacun recevra sa récompense. Il n'a pas dit la récompense. Je répète, il a dit chacun recevra sa récompense, mais il n'a pas dit la récompense. Notre récompense céleste n'a rien du paquet cadeau de forme et de contenu indiqué par les magasins Leclerc, mais un prix personnel préparé durant la vie de chaque croyant. Chacun sera récompensé selon ses œuvres. La vie éternelle est un don gratuit, mais la récompense n'est pas gratuite. Elle vient de ce que nous aurons gagné dans une persévérance et une patiente recherche du bien pour l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains chapitre 2, verset 7. Là, il est dit, dans Romains chapitre 2, verset 7, à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité. Notre récompense nous sera donc donnée selon notre gloire. Elle est notre gloire. Cette gloire sera magnifiquement manifestée dans nos corps glorieux. Elle sera donc visible, quoique maintenant elle ne le soit pas encore. Et toute la gloire que nous aurons alors sera le résultat de ce que est notre vie quotidienne de maintenant. Pourrons-nous aujourd'hui entrevoir le but de la décision prise par tous ceux qui renoncent à la délivrance immédiate en vue d'une meilleure résurrection? Comment obtenons-nous la gloire? Romains 8, verset 17 nous dit, voici ce qu'il est dit, si nous souffrons avec lui, avec Christ, nous serons glorifiés avec lui. Est-ce donc par la souffrance que nous recevrons la gloire? Non, 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 pas précisément. Car certaines souffrances n'ont rien de glorieux. Pourtant, il se peut qu'une certaine souffrance volontaire puisse ouvrir la porte à une plus grande gloire. Alors, de quelle souffrance est-il question? La souffrance dont découle la gloire est celle qui est selon la volonté de Dieu. Il s'agit de cette souffrance rencontrée lorsque nous faisons le choix de marcher jour après jour selon l'Esprit de Dieu plutôt que selon les désirs et selon les convoitises de la chair, ce qu'on appelle la vie crucifiée, ce que l'on appelle la vie crucifiée, ou si vous voulez, l'acte de se charger quotidiennement de sa croix. Il fut un temps où je croyais que, comme Jésus avait porté la croix, qu'il l'avait portée pour nous une fois pour toutes, et que nous n'avons plus rien à faire avec cela. Que pour nous, eh bien, tout doit être cool toute la vie. Mais Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Cela, je ne l'avais pas compris. C'est Saint Marc, chapitre 8, verset 34. La croix que nous avons apportée jour après jour, c'est l'acte de suivre Jésus où qu'il nous conduise, même si c'est en Mongolie. Cela nécessite évidemment une décision personnelle d'abandonner volontairement nos propres désirs chaque fois qu'il y a un conflit de volonté. Ma croix est donc la suivante. C'est l'abandon total à Dieu de ma propre volonté en toutes choses, grandes et petites, et cela tous les jours. Là où il conduit, je choisis délibérément d'aller. C'est ce que signifie d'oublier, ou si vous voulez, l'oubli de soi-même, de moi-même. Reconnaître que nous avons un seul maître, non pas notre chair, notre ancienne façon de vivre, mais Jésus-Christ. Si nous suivons un Jésus qui n'exige pas cela de nous, alors nous suivons un Jésus qui est fabriqué par nous-mêmes, qui satisferait nos caprices humains, c'est-à-dire un Jésus charnel. Et c'est justement ce Jésus-là qui a été imposé à l'Église, un Jésus sans croix à porter. Cela n'est pas seulement un problème actuel. Il existait du temps de l'apôtre Paul déjà, car plusieurs marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, dit l'apôtre Paul, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition, leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent que aux choses de la terre. Philippiens chapitre 3, versets 18 et 19. Pardon. Chers amis, nous ne devons pas croire qu'en parlant des ennemis de la croix, que l'apôtre Paul faisait allusion à ceux qui ne supportent pas la vue d'une croix, qui se ferait un plaisir de détruire toutes les croix. Mais il parlait du principe de la croix. C'était cela qu'il détestait, ne supportant pas le sacrifice de soi, parce qu'ils étaient dominés par leur chair. Je répète, c'était cela que tous détestaient. Ils ne supportaient pas le sacrifice qui doit être fait de soi-même, parce qu'ils étaient dominés par leur chair. Vous savez, je dois vous dire, et je dois avouer que j'étais pendant de nombreuses années un faux chrétien, prétendant être chrétien. On appelle ça aussi un hypocrite. Certains portent des croix en or autour du cou ou des grosses croix de bois au bout d'une chaîne. Il y en a qui s'appellent avec des noms célèbres, des chanteurs éminents et d'autres artistes. Et si on leur posait la question, ils répondraient sûrement qu'ils aiment la croix de Jésus. La plupart d'entre eux ne savent pas que chaque fois que nos désirs sont plus forts que la volonté révélée de Dieu pour nous, nous devenons, d'une certaine manière, ennemis de la croix. Ennemis de la croix. Dans la balance, nos actions pèsent plus que nos paroles. Celles-ci désavouent ce que la croix représente pour chaque chrétien, c'est-à-dire l'oubli de soi-même afin de le suivre, lui, Jésus-Christ, dans l'obéissance. L'apôtre Paul disait de ces gens-là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre et leur intérêt se porte sur les choses de ce monde. Cela s'appelle matérialisme. Nos préoccupations ne devraient pas être matérielles uniquement. Pensez à ce qui est de ce qui se trouve en haut et non à ce qui est uniquement sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens, chapitre 3, versets 2 et 4. L'apôtre Paul disait aux Colossiens qu'ils pouvaient choisir eux-mêmes leur priorité. À nous de faire le bon choix si nous cherchons l'honneur et la gloire venant de Dieu seul. L'apôtre Paul empruntait des paroles du roi David lorsqu'il disait dans 1 Chronique, chapitre 29, versets 3 et 4, et de plus, dans mon affection pour la maison de mon Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu de ce que j'ai d'or et d'argent m'appartenant en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épurés pour revêtir les murs des maisons. David dit que, à cause de son affection pour la construction de la maison de Dieu, il avait mis de côté une fortune dans ce but. La dernière partie de sa vie d'adulte, elle fut consacrée à amasser les matériaux nécessaires pour la construction du temple, une maison pour que Dieu puisse y habiter. Il comprenait que cette maison devait être la plus magnifique, surpassant la beauté et la gloire de toute autre partout ailleurs. Les historiens nous rapportent qu'elle était en effet, sans être le plus grand temple, il était tout de même le plus beau qui avait jamais été construit. David y a investi son or et son argent personnel, ainsi que d'autres matériaux évalués à une fortune colossale d'environ, écoutez bien, 1,760,000,000 de dollars actuels. David avait volontairement tout investi dans la maison de Dieu. Ceci nous montre le grand prix de la gloire du point de vue divin ainsi que du point de vue humain. Dans les Saintes Écritures, l'or est l'image de la gloire. Dans le lieu très saint, la partie la plus secrète du temple, là où se trouvait l'arche, il y avait de l'or forgé ou martelé. L'or nous parle de la nature divine de Dieu. Mais lorsque cet or est martelé ou forgé, cela nous parle de la nature divine forgée en nous. Dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons que le modèle pour le tabernacle de Moïse était pris sur le vrai tabernacle dans le ciel. David aussi reçut du ciel les modèles pour le temple. Les choses visibles sont l'image des choses invisibles. Le tabernacle de Moïse était divisé en trois parties principales. Et de cela, nous déduisons que le ciel aussi doit être en trois parties. Le centre du ciel est le trône de Dieu. C'est aussi le centre de tout l'univers visible et invisible. Le trône de Dieu est le lieu stratégique de l'univers. C'est le lieu de toute puissance et autorité, là d'où la gloire de Dieu inonde les plus vastes limites de l'espace de ses rayons aveuglants d'énergie pure. C'est de là qu'est contrôlée la création tout entière, là où est assis le Créateur dans toute sa majesté. Ce lieu était représenté par le lieu très saint de manière visible sur terre. Attenant au lieu très saint, il y avait le lieu saint, là où officiaient les sacrificateurs. En dernier lieu, il y avait le parvis où pouvaient entrer tous les croyants. En ce lieu, il se passait beaucoup de choses. Oui, on s'affairait et on était très actifs. Nous voyons ces trois division au ciel, le paradis ou le parvis, la nouvelle Jérusalem ou le lieu saint, la salle du trône ou le lieu très saint. Aussi merveilleux et joyeux que soit le paradis, il n'est pas moins un lieu où la récompense est moindre. Par exemple, il fut dit au bon larron, qui est mort en croix avec Jésus, que ce jour-là, il serait au paradis. La repentance qui se fait au moment de la mort, cette repentance ne reçoit pas la même récompense qu'une vie totalement vécue en communion avec Christ. Ce n'est pas difficile à comprendre. Dans Saint Matthieu, chapitre 25, verset 30, le serviteur inutile est jeté dans le ténèbre, dans les ténèbres du dehors. C'est pas moi qui le dis. Ce qui ne veut certainement pas dire l'enfer. L'enfer dans le cas présent, mais plutôt les limites extérieures du paradis, car même le paradis peut paraître obscur en comparaison avec l'éclat fabuleux, inimaginable de la gloire de la salle du trône. Cela pourrait peut-être être comparé à ce que nous ressentons en pénétrant dans une maison après avoir été en plein soleil. Tout ceci nous montre qu'il y a différents degrés de gloire au ciel. Dieu demeure dans une lumière inaccessible que nul homme n'a vue. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Mais Dieu nous a ouvert un chemin. Nous avons été appelés et élus, non pour être limités à passer l'éternité au paradis, mais pour être des vainqueurs par son sang et pour nous asseoir avec lui sur son trône. Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Aussi merveilleux que puisse être le paradis, nous sommes appelés à être des citoyens de la salle du trône. Tout cela peut vous paraître abstrait presque, mais c'est une réalité et cette étude ou ce genre d'étude, vous ne la recevez que très rarement dans un temple ou une église. C'est donc quelque chose que vous n'entendez pas très souvent, ou peut-être même jamais. C'est pour cela que je vous demande de réécouter de temps en temps cette étude. Croyez-moi, je l'ai reçue par l'Esprit Saint pour vous la transmettre, et ce n'est pas peu de choses. Il est plus facile de vous parler uniquement de l'amour de Dieu que de vous donner une étude aussi profonde et exceptionnelle que celle-ci. Les habitants du ciel ont des positions ou des rangs très différents selon leur gloire. Des multitudes entreront dans la salle du trône, puis la quitteront pour la région ou les régions du paradis. D'autres pourront rester dans la présence directe de Dieu, constamment sous l'impact de sa gloire. Pourquoi ? Cela se résume à un seul point, notre mesure de gloire. Celle-ci se mesure par la présence de Christ en nous. Christ en nous est notre seule espérance de la gloire. Si Christ a pu croître en nous, alors notre gloire sera encore plus grande. Voyez-vous ? Encore plus grande. C'est la vérité. Cela se résume à un seul point. C'est notre mesure de gloire. Et je répète celle-ci, se mesure par la présence de Christ en nous. Christ en nous est donc notre seule espérance de la gloire. Si Christ a pu croître en nous, notre gloire sera encore plus grande. Si nous sommes restés des chrétiens puérils et immatures, elle sera évidemment un peu moindre. Cette gloire doit donc être acquise pendant notre vie terrestre, mais elle sera manifestée dans nos propres ou dans nos corps ressuscités. C'est là qu'elle sera manifestée. Elle est donc le reflet de notre être spirituel, de ce que notre âme ou notre caractère est devenu conforme à celui de Christ. Dans le psaume 45, la fille du roi, c'est une image de l'épouse, elle est décrite comme étant toute gloire à l'intérieur. Cette gloire doit venir du dedans de notre être profond. L'or est souvent une image biblique de cette gloire. Dans ses lamentations, le fameux Jérémie fait allusion au fils de Sion, si précieux, estimé à l'égal de l'or fin, pourtant considéré comme des vastes terres. Ils peuvent avoir l'apparence de la terre, et pourtant intérieurement, ils sont de l'or. Job, en parlant de Dieu, disait « Quand Yahvé l'Éternel aura terminé, je sortirai comme de l'or. » Comment, chers amis, pouvons-nous acheter cet or conseillé par Jésus dans Revelation, Apocalypse chapitre 3, verset 18? Où est-il vendu? L'un des endroits est dans la vallée de Baca, ce qui signifie des pleurs. Oui, il est question de ce lieu dans le psaume 84, versets 5 à 7, où il est dit « Bienheureux l'homme dont la force est en toi et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. Passant peu la vallée de Baca, ils en font une fontaine, la pluie aussi la couvre de bénédictions. Ils marchent de force en force et ils paraissent devant Dieu en Sion. » Le psalmiste nous montre donc le chemin pour aller de gloire en gloire, mais il faut d'abord puiser notre force en Dieu. Nous devons en premier lieu lui faire confiance de tout notre cœur. Nos forces humaines s'épuisent dans la vallée des larmes. Dieu doit être la force de nos cœurs et ses voies, sa volonté, doivent habiter nos cœurs. Ensuite, quand arrivera l'épreuve, dans la vallée de Baca, nous la traverserons appuyés sur Christ. Nous nous laissons bien trop souvent piéger par la difficulté, mais Dieu, par sa grâce et sa force, nous fera atteindre l'autre côté. Si sa bonté qui nous fait subsister. Mais nous devons nous efforcer de nous attacher toujours plus à lui et à tenir ferme en lui. Cette persévérance, lorsque nous subissons des pressions extérieures, elle a pour effet de creuser en profondeur dans notre être intérieur. Dans ces moments-là, nous avons besoin d'un surcroît de grâce, d'une onction encore plus puissante de l'Esprit Saint de Dieu. En nous agrippant à lui pour ces choses, il peut nous faire grandir intérieurement. Nous devons donc grandir en vue de la gloire. Alléluia. David disait qu'il avait été élargi dans son affliction. Nous devenons comme un puits profond et jaillissant, et il s'agirait là d'un puits artésien, un puits qui est caché sous le roc, c'est-à-dire sous la terre, un puits qui est devant être, qui doit être percé au forêt. C'est cela. Un puits qui devrait être percé au forêt. Alors Dieu nous dit qu'il y a des rivières souterraines enfermées sous le roc de nos vies naturelles. Car quand nous nous appuyons sur Dieu pour qu'il nous donne force et grâce dans l'affliction, cela permet littéralement au Saint-Esprit de percer au travers de notre nature charnelle pour nous introduire d'un niveau de la force de Dieu à un niveau encore supérieur. Les notes marginales en hébreu traduisent cela comme allant de compagnie en compagnie, signifiant monter d'un rang ou, comme l'exprimait l'apôtre Paul, aller de gloire en gloire. Et c'est au cours de ces temps d'épreuve que nous nous élevons hors de notre nature humaine et que nous sommes chargés par la croix de Jésus-Christ œuvrant dans nos vies. C'est donc à nous de choisir. D'autre part, nous pourrions succomber à la pitié de soi-même et à l'amertume. Nous pourrions vivre continuellement dans l'obscurité du ressentiment à cause des coups durs de la vie. Mais une plus grande gloire sera donc tissée dans la vie de tous ceux qui auront traversé cette vallée après avoir souffert avec un cœur pur. Dans leur être intérieur bouillonne un puits qui vient de Dieu. De tels puits vont donner à boire à beaucoup sur cette terre. Mais la gloire intérieure de ces sources, la vie même de Christ, nous équipe pour la plus grande gloire de Dieu à laquelle nous sommes appelés, vous et moi. Cette vérité est exprimée également dans le psaume 66, versets 10 à 12, où il est dit « Car ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as affinés comme on affine l'argent. Tu nous as fait entrer dans le filet, tu as mis un fardeau accablant sur nos reins, tu as fait passer les hommes sur notre tête, nous sommes entrés dans le feu et dans l'eau, et tu nous as fait sortir dans un lieu spacieux. Donc, la souffrance a évidemment deux buts. La souffrance a donc deux buts. Elle nous aide à transmettre sa gloire aux nations et elle nous prépare à l'amplitude de la gloire de la salle du trône. À cause des progrès techniques de la médecine, nombreux sont les témoignages de personnes mortes cliniquement qui ont été réanimées. C'est vrai. Certains parlent de ce qui s'était passé entre leur mort et leur réanimation. Beaucoup de ces témoignages concordent pour dire que le ciel a une cour extérieure, que des multitudes de saints y sont présents, que c'est un lieu magnifique ressemblant à un grand jardin. Une ville brille à l'horizon de sa gloire, elle est visible et sensible, nous appellerions cela l'onction. C'est la Jérusalem céleste, et de la cité fusent des jets de gloire venant du trône et de celui qui est assis. Les saints la regardent de loin avec un profond désir, sachant que le moment d'y aller n'est pas encore venu. Ils ne pourraient supporter tout de suite cette gloire. Nous aurions pu nous laisser transformer en quelques années sur terre, explique-t-il, mais nous ne voulions pas nous abandonner à Dieu complètement en ce temps-là. Dieu a donc montré à une sœur en Christ, et cela en esprit, il lui a montré la maison de Dieu et le temps intérieur, le temple intérieur était évidemment la salle du trône. Je répète, le temple intérieur était la salle du trône. Et cette salle était remplie de personnes glorieuses, brillantes comme de l'or. Je voyais que ces personnes-là étaient celles qui pourraient vivre tout près de lui, dans son sein, et cela pour toujours. Un peuple absolument capable de vivre dans la fournaise de sa sainteté, parce que leur impureté charnelle avait été complètement purgée et qu'il ne restait en eux plus rien d'inflammable. Alors leur pureté les rendait ignifuges, inflammables. Je savais alors que c'était là, cette meilleure résurrection tant désirée par les saints d'autrefois, être estimé digne de faire partie du lieu très saint, avoir part à son héritage et être auprès de lui, auprès de Dieu Tout-Puissant, et tout cela pour l'éternité. Cette étude que vous entendez maintenant, vous ne l'entendrez pas très souvent, peut-être même jamais. Je prie maintenant que je puisse achever ma course. C'était la deuxième partie de l'obtention d'une meilleure résurrection. D'abord, nous devons être changés, nous devons être transformés, ce qui arrive souvent dans la souffrance. Et ensuite, nous devons terminer la course. Non seulement Dieu nous a choisis dès la fondation du monde, mais il nous a aussi préparé un parcours. Dieu nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps des siècles. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Ce parcours implique non seulement la croissance de Christ en nous, mais aussi les dons de Dieu en vue de l'accomplissement des œuvres préparées d'avance. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Nous avons chacun d'entre nous des œuvres à accomplir pour le Seigneur, et si nous les faisons pas, ce sera quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre emportera notre couronne. Mais personne ne pourra faire aussi bien que nous ce qui nous était tout d'abord spécialement destiné. C'est donc une œuvre qui a été préparée d'avance par Dieu pour nous. Non seulement nous pouvons faire notre travail parfaitement, mais ce travail nous perfectionne. L'apôtre Paul comprenait tout cela. Il savait qu'il ne pouvait obtenir cette meilleure résurrection s'il n'achevait pas toute sa course qu'il devait achever durant sa pénible vie. Il me semble que dans le Nouveau Testament, cette foi, l'apôtre Paul est aussi l'un de tous ceux qui refusaient à l'avance, tout d'abord, autrefois, la délivrance en vue de celle-ci. Il avait eu l'occasion d'échapper à l'emprisonnement et au martyr, mais voyez-vous, il a refusé. Pourquoi cela ? Parce qu'il attendait maintenant une beaucoup meilleure résurrection. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Et maintenant, voici, étant lié dans mon esprit, je m'en vais à Jérusalem, ignorant les choses qui m'y doivent arriver, sauf que l'Esprit Saint rend témoignage de ville en ville, me disant que des liens et de la tribulation m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, moi, je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous tous, vous ne verrez plus mon visage. Actes chapitre 20, versets 22 à 25. Donc, Dieu révéla à l'apôtre Paul ce qu'il attendait. Il savait exactement ce qui était devant lui. Mais malgré cela, il choisit de continuer vers Jérusalem. Il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourquoi que j'accomplisse et surtout pour que je puisse accomplir ?» Voilà donc ce que j'ai à vous dire. « Pour que je puisse accomplir, dit l'apôtre Paul, ma course avec joie. Mais, comme nous le voyons dans Actes 21, versets 10 à 14, il en connaissait jusqu'au détail. Il est dit, et comme nous nous arrêtâmes là plusieurs jours, un prophète qui était nommé Agabus descendit de la Judée et étant venu auprès de nous et ayant pris la ceinture de l'apôtre Paul et s'étant lié les pieds et les mains, il dit, l'Esprit Saint dit ces choses. Écoutez, l'homme à qui est cette ceinture, les Juifs à Jérusalem le lieront ainsi et le livreront entre les mains des nations. Et quand nous avons eu entendu ces choses-là, nous et ceux qui étaient du lieu, nous avons supplié l'apôtre Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais l'apôtre Paul répondit, « Que faites-vous en pleurant et en brisant mon cœur ? Car pour moi, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne se laissait pas persuader, nous nous sommes tus, disant que la volonté du Seigneur soit faite. Le dernier arrêt de l'apôtre Paul sur la route de Jérusalem fut Césarée. L'apôtre Paul et les disciples s'arrêtèrent plusieurs jours. Ils s'arrêtèrent chez Philippe, dont les quatre filles avaient le don de prophétie. Mais l'heure est venue où il fallait partir, et les frères supportèrent mal la séparation. Le pathétique de cet événement nous est rapporté par le jeune apôtre Luc. Luc, le disciple de Jésus, tel qu'il l'a vécu et qu'il l'a ressenti. C'est peut-être l'un des récits les plus poignants des Saintes Écritures. Il révèle également le double aspect de la vie et le ministère de l'apôtre Paul, qui fut à la fois père et fils. Pourquoi, dit-il, pourquoi pleurez-vous en brisant mon cœur? C'est le père parlant à ses enfants. Voyez-vous, je suis prêt, non seulement à être lié, mais aussi à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous voyons ces relations de fils du Dieu Tout-Puissant. Nous constatons donc son abandon total à son maître Jésus-Christ, dont il était esclave, esclave d'amour. L'apôtre Paul était un père pour les églises implantées par lui. Il était plus qu'un enseignant, puisqu'il les avait enfantés dans la foi. Il les nourrissait tout au long de leur enfance jusqu'à ce que des pasteurs et des diacres soient consacrés parmi eux. L'apôtre Paul, premier grand pionnier missionnaire dans l'Église, leur avait apporté la sainte parole de vie. Il les avait enfantés, établis dans la foi. Il les avait nourris avec douceur quand ils étaient encore des bébés spirituels. Ils lui devaient donc tout spirituellement. Et dans toute l'acceptation du terme, l'apôtre Paul fut donc le père de leur foi. Il représentait ce qui reliait l'humain au grand Dieu invisible qu'ils servaient tous. Il l'aimait et le suivait comme lui suivait Jésus, ils l'honoraient de tout leur âme. L'apôtre Paul était ce père spirituel pour certains des disciples, se trouvant dans la maison de Philippe, et c'est pourquoi ils l'ont imploré de reconsidérer sa décision. Les enfants dans la foi s'agrippent au Père dans la foi. Ceux qui sont nourris s'accrochent à celui qui nourrit. C'est un moment déchirant. L'apôtre Paul, le Père conscient de leurs revendications à la fois spirituelles et sentimentales. Pourquoi, dit-il, pourquoi pleurez-vous en brisant mon cœur? L'apôtre Paul a du chagrin, et c'est cette chose terrible que de se séparer de ceux qu'on aime et qui ne veulent pas nous laisser partir. D'autant plus qu'il savait qu'il ne le reverrait plus jamais. Et l'apôtre Paul a dû s'arracher carrément d'eux. L'apôtre Paul souffre aussi, son cœur déjà tellement marqué par la souffrance pour Christ, porté autant de cicatrices que son corps. Une fois de plus, son cœur est transpercé car il sait être la cause de leur douleur. Néanmoins, il ne modifiera pas sa course. Nous voyons donc là l'aspect filial exemplaire de l'apôtre Paul. Il avait donné les droits de Jésus-Christ sur sa personne. Il était en premier lieu l'esclave de Jésus-Christ et ensuite il était le père des assemblées, des églises. Les droits divins sur lui avaient pour lui beaucoup plus d'importance que tout droit humain, aussi vrai et sincère fussent-ils. Quoique il fût leur père, il leur avait été prêté par Dieu pour un temps. Ce géant néo-testamentaire de la foi, apôtre, prophète, père spirituel, qui seul les avait évangélisés, conduit et enseigné, qui s'était donné carrément corps et âme à leur service, au service des églises, appartenait d'abord à Dieu et non pas seulement à eux. À travers leurs larmes, ces enfants le discernent enfin et malgré toute leur douleur, le remettant à la volonté et entre les mains de Dieu qui le leur avait envoyé. Ils remettent maintenant l'apôtre Paul entre les mains de Dieu. Dieu qui leur avait envoyé ce grand apôtre, ce grand professeur de la Sainte Parole. Ce fut un acte de renoncement pour tous ceux concernés, l'apôtre Paul et les disciples. Donc le renoncement est toujours douloureux, mais facile, car il implique quelque chose qui meurt dans l'âme et la destruction de désirs profonds. Nous n'avons pas pu le persuader et nous avons donc renoncé de le faire. C'est ce que nous ajoute Saint Luc. Et l'apôtre Paul, avec une force de caractère suffisante pour supporter son chagrin personnel, se fortifia dans son attachement aux choses d'en haut. Il continua de courir vers le but, son but personnel. L'apôtre Paul savait que sa course menait à Jérusalem, d'abord, et à Rome, que cette course l'amenait à l'emprisonnement, ainsi qu'à la mort. Mais malgré tout, il choisit de son libre arbitre de continuer. Peut-être avons-nous chacun une rencontre à Gethsémané si nous avançons avec Christ, cet endroit où nous nous soumettons à lui, à Jésus, quel qu'en soit le prix à payer. Mais c'est toujours volontairement que nous faisons ce choix-là. Il existe toujours la possibilité de faire demi-tour ou de tout contourner, comme nous l'avons déjà dit. L'apôtre Paul aurait pu aller ailleurs. Il aurait pu planter encore des églises dans les territoires vierges pendant encore des années. Pourtant, il savait que son parcours à lui menait à Jérusalem et à Rome. Il choisit donc le plan de Dieu qui pour lui était l'emprisonnement. Le dernier récit de l'apôtre Paul à cet égard se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4. Il doit bientôt mourir et l'heure de son martyre approche. Il fait ses adieux à Timothée ainsi que à nous. Car pour moi, me voici déjà offert en libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Versets 6 à 8 de 2 Timothée chapitre 4. L'apôtre Paul avait donc achevé sa course et avait gardé la foi. Désormais, une couronne de justice lui était réservée. L'apôtre Paul savait que cette merveilleuse couronne représentant un haut niveau de gloire, et que tout cela l'attendait pas dans son travail, et tant qu'il ne fut pas terminé. Donc la gloire l'attendait au bout, au but. La couronne était donc le résultat direct d'une course achevée totalement dans la joie. Encore aujourd'hui, la vie de l'apôtre Paul représente un défi pour moi, car en Dieu et par les yeux de la foi, l'apôtre Paul voyait quelque chose et il courait afin de l'obtenir. Il voyait en Dieu une dimension beaucoup plus haute que leur objet ou leur objectif humain. Dans son ministère apostolique, il avait atteint les cimes, mais même dans ces lieux élevés, jamais il n'ambitionnait une position encore plus haute. Il voyait l'éternité, il voyait les temps sans fin, il voyait le royaume des cieux, et il voyait Jésus comme peu l'ont jamais vu. Je suis très reconnaissant de ce que l'apôtre Paul a poursuivi son chemin jusqu'à Jérusalem, malgré tous les conseils, sachant très bien où Jésus les dirigeaient. La plus grande partie de notre Nouveau Testament, elle nous vient de la plume de l'apôtre Paul. Et beaucoup ont été écrits en prison. Son ministère est unique parmi les dons offerts par Dieu à son Église. Il disait souvent, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ Jésus. » Faisons-le maintenant. Faisons comme lui, mes chers amis. Achevons notre course, notre parcours personnel, celui qui nous mènera au-delà des prés du paradis, au-delà des rues pavées d'or de la Nouvelle Jérusalem, jusque dans la salle du trône et jusque dans le sein de Dieu lui-même. Notre course personnelle, c'est le seul chemin prévu par notre maître pour que nous puissions aller d'un campement jusqu'à l'autre, en sécurité totale sur cette longue route qui mène jusqu'au but. Oui, une meilleure résurrection. Ne soyons pas comme certains qui se sont installés au bord de la route, trop découragés pour continuer. Levons-nous donc, et semblables aux anciens pèlerins, courons ensemble vers le but. L'apôtre Paul a achevé sa course, il a atteint le sommet lointain de son but. Courons aussi, vous et moi, pour remporter le prix. Pour ceux qui possèdent Internet, s'il vous plaît, cherchez sur www.bibleexplique.ch et là vous trouverez la vision véritable de Marietta concernant le ciel. Chers amis, je vais dire quelques mots de prière, car je suis beaucoup trop ému pour faire une longue prière. Si parmi vous, chers amis, il y en a qui sont près de 90 ans comme moi, et un peu fatigué de la vie et de quelques bobos que nous avons, prenez courage. Même si nous avons plus que quelques semaines à vivre, eh bien prions et intercédons pour que des âmes puissent être sauvées. Seigneur, je pense à tous ceux qui souffrent, qui ont tout perdu, soit par la guerre, soit par le feu, ou par les inondations et d'autres catastrophes. Seigneur, aie pitié de toutes ces familles. Aide-nous à rester vigilants, courageux et victorieux jusqu'au bout de notre course. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à demain matin, Dieu voulant, pour une nouvelle merveilleuse série que le Seigneur me donne par son Esprit Saint. À bientôt donc, mais je vous demanderai une chose. Ne faites pas comme moi. N'attendez pas 90 ans pour être définitivement convaincu de servir le Seigneur. Si vous avez la moitié de mon âge, je vous demande sincèrement commencez tout de suite à servir le Seigneur. C'est très sérieux, car nous arrivons à la fin des temps, et vous le constaterez, croyez-moi. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Au revoir, mes très chers amis. Amen.